Au quotidien, avec Hélène Denis.
Quelle belle journée d'hiver, magnifique paysage, c'est tout blanc et ensoleillé et c'est bon pour le moral. Mathieu, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Quand vous dites tout blanc, vous parlez de moi, là?
Ben, peut-être, mais je parlais surtout de la neige. Quand elle est blanche, elle est belle, mais quand elle est brune, elle est très salissante. Alors, qu'est-ce que vous avez mis, là, sur votre micro? Une sorte de touffe d'herbe. Ça vient pas de dehors, ça?
Oui, ça vient de dehors. C'est du pain.
Ah, du pain?
Ben oui. Parce que j'ai pas de fenêtre dans ma régie, je me suis dit, je vais mettre un peu de l'extérieur à l'intérieur.
Un peu de nature.
Voilà.
Est-ce que c'est toujours odorant?
Oui, ça sent un petit peu.
Ah, oh, c'est des odeurs qu'on aime. Ce sont des odeurs qu'on aime. Alors aujourd'hui, en ce 28 janvier 2026, le mois de janvier est presque terminé, presque derrière nous, nous aurons des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse, qui est à Houston. De ces temps-ci, où nous dirons un petit peu la raison de sa visite au Texas. Nous aurons également Anne-Élisabeth Bossé, une comédienne qu'on aime beaucoup, qui est co-porte-parole de la Journée nationale de mobilisation pour l'Alzheimer et la campagne N'oublions personne dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. On parlera d'une autre campagne, cette fois Déneiger la voie, avec Sarah Rouleau, qui est gestionnaire des communications et de la sensibilisation à INCA, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à changer ce que signifie être aveugle dans la société d'aujourd'hui. Elle sera accompagnée par Fadila Rachidi, qui a un handicap visuel et qui se déplace l'hiver. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile quand on voit. Alors, imaginez quand on ne voit pas ou qu'on a des enjeux de santé visuelle. C'est assez compliqué de se déplacer, surtout quand les trottoirs ne sont pas déneigés. Un vrai parcours du combattant ou de la combattante dans ce cas-ci. Et puis, on terminera avec Hilaire Saint-Laurent, auteur, metteur en scène et comédien d'une pièce qui fait beaucoup parler, qu'on reprend parce que ça connaît beaucoup, beaucoup de succès au Théâtre Denise Pelletier. C'est Agamemnon, In the Ring, une guerre de Troie contre Troie. Alors, un grand classique qui se passe sur une arène de lutte, là. De ce temps-ci, hein, on brasse un peu les classiques, on les met dans des contextes différents. Je pense à Macbeth de Robert Lepage qui se passe dans le milieu des motards. Il y a des vraies motos sur la scène du TNM. Alors, Hilaire Saint-Laurent nous parlera de son Agamemnon, pourquoi il a eu cette idée, donc, d'en faire un match de lutte. Est-ce qu'on dit un match de lutte?
Je pense que oui.
Oui, OK. On va dire ça comme ça pour aujourd'hui, pour ce matin. Et puis, on va en parler avec Hilaire, qui est un peu plus spécialisé, j'en suis convaincue, plus tard dans cette émission. Et on commence avec une nouveauté, c'est les louanges dans « La journée va être chaude ».
Êtes-vous toujours là? Steak sur deux pattes, je me tiens bien droit comme un arbre. J'ai perdu quelques feuilles. Chaque pas, chaque jour nous rapproche un peu plus du cercueil. Loin de moi l'idée de gâcher votre fun, mais la journée de demain s'annonce chaude. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. C'est pas une question de qui, c'est une question de temps. Alors que la maison brûle, on va danser. C'est comme tout le monde. Tous les jours, tout le temps, cette même voix que j'entends. Cette même voix que j'entends. Tous les jours, tout le temps, à chaque seconde, chaque instant. Oui, je le sais, je le sens que la journée va être chaude. Sur cette des gens que je veux plus entendre. L'enfer c'est pas les autres, ton voisin ou la gauche, mais celui qui fait du profit à te laisser dans l'eau chaude. Alors que la maison brûle sous un soleil de plomb. Alors que la maison brûle, on va danser à l'ombre. Alors que la maison brûle, on fait comme tout le monde. Tous les jours, tous les temps, cette même voix que j'entends. Tous les jours, tous les temps, à chaque seconde, chaque instant. Oh, je le sais, je le sens que la journée va être chaude. On alimente le feu sur cette roche qui réchauffe.
La journée va être chaude, une chanson de Les Louanges.
Oui, pas météorologiquement parlant, mais peut-être autrement. Alors, à la une maintenant des journaux, on y va avec le Journal de Montréal, vacances d'horreur, leur famille prise en otage, volée, menacée, abandonnée en forêt, vraiment choquant. Comme article ici, Francis Pilon, une jeune famille québécoise met en garde les voyageurs qui comptent se rendre à Zanzibar après avoir été violemment kidnappée par son chauffeur de taxi et dépouillée de 21 000 $ durant son escapade en Afrique de l'Est. Quand mon fils m'a demandé « Maman, est-ce qu'on va mourir? » je lui ai dit « Je ne sais pas ». L'enlèvement a duré 6 heures, ça a été très dur, raconte Andrea Juge, toujours sous le choc. Elle et son conjoint Arnaud Loret, ainsi que leurs deux enfants âgés de 7 et 9 ans, ont été pris en otage le 13 novembre dernier. La famille qui réside à Montréal a décidé de briser le silence pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Le journal a obtenu une copie du rapport de police en Tanzanie sur l'affaire. Selon le document, la famille s'est fait voler, comme je le disais tantôt, pour 21 000 $ de biens, dont des cellulaires ou encore une alliance de mariage. Affaires mondiales Canada invite le public à être très prudent durant un voyage en Tanzanie. Il est souligné que des enlèvements éclairs y sont parfois perpétrés par des taxis. À la une maintenant du Devoir, toujours peu de mandats pour le Top Gun de l'éducation. Zachary Goudreau, la formation du CA de l'Institut national d'excellence en éducation prend du retard 6 mois après l'arrivée de Lucien Maltais à la tête de l'Institut national d'excellence en éducation. Le champ d'action de la Société d'État demeure bien limité, celle-ci tardant à former son conseil d'administration, une situation que dénoncent des experts et deux parents qui se posent des questions sur l'efficacité de Québec dans ce dossier. Le 28 juillet dernier, l'ancien dirigeant du Centre de services scolaires des Chênes à Drummondville est officiellement entré en fonction comme président-directeur général de l'Institut. Son salaire annuel s'élève à 209 651 $, indique plutôt l'Institut au Devoir. Créé dans le cadre d'une réforme menée par l'ancien ministre de l'Éducation Bernard Drainville, la Société d'État doit notamment servir à dresser une synthèse des connaissances scientifiques disponibles au Québec comme ailleurs concernant la réussite éducative et le bien-être des élèves. On a une photo aussi de l'écrivain Gilles Archambault, le vieil homme et la mère, mère M-E, accent grave R-E, l'écrivain nonagénaire Gilles Archambault qui vient de publier « Puis je serai seul » pose déjà les balises d'un prochain livre, une rencontre avec Jean-François Nadeau. Un an de guerre commerciale, faire le deuil de la Floride. Cet hiver, des snowbirds mettent plutôt le cap sur le Mexique, les Caraïbes ou le sud de l'Europe. C'est Annabelle Caillou qui signe cette série de textes. Ils aimaient la Floride pour son soleil, ses parcs et ses plages. Ils la quittent en raison de leurs convictions politiques. Depuis la sermentation de Donald Trump, de nombreux snowbirds québécois ont rayé les États-Unis de leur carte hivernale pour manifester leur désaccord profond avec les politiques du président américain. Cette année, donc, ils mettront le cap sur le Mexique, les Caraïbes ou le sud de l'Europe. Premier article d'une série de 4. Et à la une de la presse, Banque Royale des clients vulnérables floués. Une histoire qui est aussi choquante. Un conseiller financier, imaginez, qui aurait profité de ses accès pour voler plus de 850 000 $ dans leur compte, Vincent Larouche de l'équipe d'enquête, qui écrit qu'un conseiller financier de la Banque Royale a été arrêté en pleine succursale à Québec pour avoir volé plus de 850 000 $ dans les comptes bancaires de clients vulnérables. Afin de financer ses dépenses extravagantes au Canada et en Côte d'Ivoire, il s'est acheté au moins deux Mercedes, l'employé aurait détroussé pendant des années un veuf éploré, une retraitée ainsi que des familles qui attendaient de régler la succession d'un être cher disparu. Ange Coudou, 35 ans, était dans la ligne de mire de la police de Québec depuis plus d'un an, dès juillet 2024, à la suite d'une enquête interne des services de sécurité de la banque. Il avait été arrêté sur son lieu de travail dans une succursale de la Grande Allée. Il avait d'abord été relâché pour la poursuite de l'enquête. Il a été arrêté de nouveau peu avant Noël par l'unité d'action concertée contre les crimes économiques et financiers, une équipe spécialisée de la police municipale. Des accusations de fraude ont été portées contre Coudou et il doit comparaître devant la Cour le 12 mars. Dans une déclaration sous serment déposée au palais de justice que la presse a consultée, un enquêteur souligne que le conseiller financier avait accès au profil complet des clients dans le cadre de son travail. Selon la police, le suspect fonctionnait presque toujours de la même manière. Il ciblait des clients qui reçoivent leur correspondance bancaire en version papier par la poste. Il modifiait temporairement leur adresse de correspondance, puis liquidait certains de leurs actifs. Et joint à la presse, par la presse, Ange Coudou n'a pas voulu discuter des accusations à son endroit. Selon nos informations, toutes les victimes identifiées par l'enquête auraient été remboursées ou serait en voie de l'être. La personne en question ne travaille plus à la banque et nous avons activement soutenu les clients touchés en prenant soin de résoudre directement leurs préoccupations, a confirmé Rachel Landry, porte-parole de la Banque Royale.
Sûrement que ça ferait pas de mal de se voir. Sûrement que ça ferait pas de mal de se parler. Sûrement qu'on se fait des peurs à pas s'écrire. Y a des moments où je me demande quoi j'ai là. Faudrait être con pour rester fier. Faudrait être lâche pour rester sain. J'aurais dû faire mieux. Puis toi dans le fond, as-tu des choses à me dire? De goéland sur un bateau, ça crache au vent, puis ça s'épuise. Ça se rend pas compte que si c'est le même navire. We'll be right back.
C'était Marie-Céleste et leur chanson de Goéland.
Des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse, qui nous parle en direct du Texas, Julien.
Ben oui, mais même pas en Ontario francophone, mais oui, je suis à Austin pour 2-3 jours.
Ouais, qu'est-ce que vous faites là exactement?
Je participe à une conférence organisée par une firme qui est financée par Google, puis on va parler d'intelligence artificielle en journalisme là, pendant ces 2 jours-là.
L'intelligence artificielle, ça me dit quelque chose, ça. On en parle de plus en plus. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, dans votre chronique, vous en parlez, mais d'abord, il est question de financement fédéral.
Oui, il y a le réseau pour le développement de l'alphabétisation et des compétences, qui se résume par RESDAC, qui est un organisme national francophone. Bon, eux, ils dénoncent qu'il y a un déséquilibre du financement entre les anglophones et les francophones du Canada pour la question de la formation continue. Dans un mémoire qu'ils ont déposé au comité gouvernemental, ils notent qu'il y a beaucoup de financement qui est accordé à des organismes anglophones pour la formation aux adultes, mais qu'il n'y a presque rien qui est alloué aux organismes francophones, dont eux, évidemment. Parfois, dans le financement donné aux organismes anglophones, ils précisaient qu'il y a un volet francophone. Par contre, le réseau dénonce que ce que ça veut souvent dire, c'est du bilinguisme de façade. Oui, il y a de l'information qui est diffusée dans les deux langues, mais le programme puis la formation ne sont pas conçus ou adaptés en fonction des besoins des francophones. Dans leur rapport, ils avancent aussi le concept de bilinguisme soustractif. Je trouvais ça intéressant parce que ça se produit lorsqu'un francophone qui apprend l'anglais pour le travail. Puis là, il commence à parler de plus en plus dans son travail, puis dans sa vie sociale, puis peuvent aller jusqu'à perdre l'usage du français parce qu'il manque d'occasion de le pratiquer. Le réseau préfère le concept de bilinguisme additif, c'est ça qu'ils veulent que le gouvernement travaille à atteindre, où l'anglais reste une langue seconde, tout en maintenant la langue majoritaire dans la vie quotidienne comme étant le français. C'est ce qui s'efforce de créer de leur côté, mais pour ça, évidemment, ça prend une masse critique de gens avec qui on peut parler en français.
L'IA, donc, on en parlait en début de chronique. Mm-hmm. L'IA peut-elle stimuler la croissance économique dans les communautés autochtones? C'est une question que pose le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Les peuples autochtones de la région de l'Atlantique se demandent justement comment l'intelligence artificielle pourrait favoriser leur développement économique. La réflexion a été lancée par un rapport qui a été déposé à la fin de l'année dernière. Il y a évidemment plusieurs inquiétudes liées à l'intelligence artificielle pour les peuples autochtones. Ils voient ça un peu comme un autre potentiel outil de colonisation s'ils n'ont pas le contrôle de ce qu'ils peuvent faire avec leur culture et leur langue avec cet outil-là. Mais il y a aussi des possibilités de développement économique en jeu. On dit que les outils pourraient être utilisés dans les domaines de la pêche, des énergies propres et du tourisme pour accélérer certains processus. Par contre, le seul exemple qu'on donne dans le rapport, c'est la rédaction plus rapide de subventions pour sauver du temps pour que les gens puissent faire d'autres tâches. Il y a aussi la question de la souveraineté des données, puisqu'on ne peut pas qu'elles soient utilisées par d'autres sans consentement. Puis ça, c'est un problème de l'intelligence artificielle. Ils sont entraînés avec des données, pas toujours avec le consentement. Mais il y a aussi tout un besoin d'éducation dans les communautés autochtones sur l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas quelque chose qui est bien compris.
Grande question. Rendre la vie de campus attractive en Ontario français.
Ça a été annoncé la semaine dernière. Les 2 collèges et les 7 universités de langue française et bilingue de l'Ontario se sont regroupés pour promouvoir l'éducation postsecondaire en français dans la province. L'initiative découle d'une recommandation du ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, puis on leur a fourni, octroyé 2 millions de dollars pour préparer une campagne de promotion unifiée. La campagne porte le nom justement de « Vie de campus ». Ça met de l'avant les avantages d'étudier dans les universités francophones. Puis il y a certaines d'entre elles qui sont plus petites, donc la taille des classes peut être un attrait, une plus-value par rapport aux plus grosses universités. La campagne va être utile pour faire connaître les universités et les collèges de façon plus large, tout en permettant à chacun de conserver sa propre identité. Là, on n'a pas créé une grosse université, c'est juste une campagne de promotion pour faire la promotion des différents collèges et universités, différents campus. La campagne de marketing est devenue nécessaire, dit-on, en raison de la diminution des admissions en éducation postsecondaire par le gouvernement fédéral pour les étudiants étrangers. Quelque chose dont commençaient à dépendre ces collèges et universités-là. Donc, on veut augmenter la part d'étudiants locaux pour augmenter les revenus finalement.
Dans le franco, il est question de casinos caritatifs, un financement vital mais très encadré.
Le franco dévoile un peu les dessous du financement de certains organismes francophones un peu à travers le Canada, mais pas partout. En Alberta, les organismes à but non lucratif peuvent utiliser un programme de la Alberta Gaming Liquor and Cannabis, qui est l'agence qui réglemente les jeux, l'alcool et le cannabis, pour utiliser les casinos de la province afin de recueillir des fonds. Pendant 2 jours, les bénévoles d'un organisme en question travaillent dans un casino commercial, puis une partie des profits réalisés pendant cette période de travail-là va à l'organisme en question. Pour des organismes qui dépendent uniquement du financement de patrimoine canadien et d'immigration au Canada, parfois, là, comme ces organismes francophones-là de l'Alberta, ça peut être une bonne manière de compléter leur budget. Par exemple, l'Association canadienne-française de l'Alberta pour la région de Calgary, on explique que pour leur festival d'hiver, patrimoine canadien leur a donné 9 000 $, mais grâce à l'utilisation de ce programme-là, puis leur participation dans 2 jours au casino, ils ont pu recueillir 15 000 $ supplémentaires, puis ça leur a permis de présenter un festival de plus grande envergure un peu. C'est pas sans condition. Les organismes qui postulent doivent suivre des règles très strictes. Ils peuvent pas dépenser l'argent pour n'importe quelle activité. C'est seulement pour l'administration, puis des activités de promotion, des initiatives ethnoculturelles et payer le salaire des gens qui font la prestation des programmes communautaires. Dans l'article, on dit que c'est la seule province au Canada où on peut faire ça, mais en Ontario, il y a quelque chose de similaire où des bénévoles d'organismes peuvent aller dans des soirées, dans des lieux pour les bingos caritatifs, puis on recueille une partie des profits comme ça.
Du bingo, on passe à Bardot. En conclusion, chasse et produits dérivés du phoque. Brigitte Bardot, le grand fardeau.
Le Nunavoie a consacré un vaste dossier sur l'impact de l'interdiction de la commercialisation des produits du phoque sur les Inuits. C'est évidemment le décès de Brigitte Bardot le 6 janvier qui a inspiré le rédacteur en chef du Nunavoie de faire ce dossier-là. C'était la première célébrité qui s'était élevée contre cette chasse-là dans les années 1970, puis et ça avait attiré beaucoup d'attention. Ce qu'on rappelle dans le très long article, qui est quand même intéressant et qui se lit très bien, c'est que l'interdiction de la chasse qui a suivi était une décision qui a été prise sans tenir compte de la réalité et du mode de vie des Inuits. Ça a entraîné un effondrement de leur économie. Ça a plongé une bonne partie de la population dans la pauvreté. Les chercheurs aussi, je résume, il y a beaucoup d'éléments dans l'article, mais un des autres éléments intéressants, c'est que les chercheurs indiquent que cette interdiction-là a accidentellement conduit à une expérience scientifique. C'est que la population de phoques a explosé depuis qu'on a ralenti beaucoup la chasse, que les Inuits ont ralenti la chasse. On estime actuellement qu'il y a 6 fois plus de phoques dans l'Arctique que dans les années 70. Ce qui fait qu'ils consomment énormément de poissons, plus que les bateaux de pêche peuvent aller chercher. Puis, ça a donc un impact écologique notable. Puis même les phoques souffrent de malnutrition et tombent malades. Il y a des opposants à la chasse aux phoques qui utilisent encore aussi la désinformation ou la mésinformation. Par exemple, les organismes en Europe continuent d'utiliser les photos de bébés phoques et de blanchons pour dénoncer la pratique, alors que leur chasse est interdite depuis 1987. Ça se fait plus, sauf sous braconnage peut-être, mais c'est interdit. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut réinterdire. Il y a tout de même un certain assouplissement des règles qui a eu lieu depuis 2009. La vente de produits issus de la chasse traditionnelle inuite et autochtone est permise, mais ça n'a pas été assez pour relancer une certaine économie. Et aussi, le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Groenland ont un statut de consultation auprès de l'Union européenne depuis 2015 sur cette question-là particulièrement. Donc, le débat n'était pas terminé. Les Inuits continuent de réclamer un accès à leurs pratiques ancestrales parce qu'ils sont en train de la perdre en raison de l'interdiction.
Ouais. Alors, c'est là-dessus qu'on conclut, cher Julien. Merci beaucoup. Bon séjour à Houston. On se retrouve la semaine prochaine. Vous serez en Ontario la semaine prochaine?
Oui, je vais être de retour chez moi.
Merci. Au plaisir.
Merci. Bonne semaine.
Sur une route déserte, longeant l'océan, mes mains au volant, tes cheveux dans
Damien Robitaille, qui est au Club Soda ce soir pour sa première médiatique.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started, something to get me started, got to get me started.
Thank you.
God Gave Me Feet for Dancing, c'était Esra Collective avec Yasmine Lacey.
Merci Mathieu. Le Théâtre de la Manufacture célèbre ses 50 ans cette année et on part ça en grand avec une production. En fait, c'est la 100e production dans le cadre de ces 50 ans. Et la 100e production, c'est Changer de vie, une pièce qui est présentée donc à la Licorne sur la rue Papineau, une pièce de Catherine Léger, dramaturge, scénariste extrêmement talentueuse. La pièce est mise en scène par Philippe Lambert et met en vedette Isabelle Brouillette, Marilyn Castonguay, Steve Laplante, Hubert Proux. Quand la pièce commence, parce que j'ai assisté à la pièce la semaine dernière, alors quand ça commence, Christian et Nathalie, qui est un couple interprété par Steve Laplante et Isabelle Brouillette, on est dans la maison et vient de débarquer Jasmine, qui est interprétée par Marilyn Castonguay. Elle débarque à 4 heures du matin et elle a pris au mot l'invitation de... En fait, c'est pas une invitation, c'est une publication Facebook de Nathalie. « Chez moi, la porte est toujours ouverte, le café est toujours prêt. » Elle a vraiment pris ça, donc, au pied de la lettre. Et ce sera donc le début d'une remise en question du couple, d'une quête de bonheur et même d'une relation avec ChatGPT parce que, justement, Jasmine va initier Nathalie à ChatGPT. Et ChatGPT qui a réponse à tout, finalement, qui a même le pouvoir de nous faire déménager à Thetford Mines, mais je ne vous en dis pas plus. Catherine Léger a écrit un texte brillant qui pose des questions morales, qui pose des questions philosophiques, mais ce qu'on apprécie, c'est qu'elle ne nous fait pas la morale. Elle n'appuie pas sur le crayon. Elle ne prend pas son public pour des idiots. La distribution est vraiment bourrée de talent. Isabelle Brouillette, Marilyn Castonguay, Steve Laplante et Hubert Proux sont remarquable. Et bref, vous avez compris que j'ai beaucoup apprécié Changer de vie et je pense que je ne suis pas la seule. Les critiques sont excellentes dans l'ensemble et ce qui fait que toutes les supplémentaires qui ont été ajoutées jusqu'au 7 mars affichent complet. On ajoute des supplémentaires. Cette fois, il va falloir être patient du 1er au 17 septembre. Alors, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de la Licorne, théâtrelalicorne.com. Un nouveau chapitre pour le regroupement des personnes handicapées physiques. Après plus de 40 ans d'engagement auprès de la population, le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford amorce un nouveau chapitre de son histoire. L'organisme adopte désormais le nom REPERS, RE, trait d'union, P-E-R-S, ressources aux personnes vivant avec une limitation physique et sensorielle accompagnée d'une identité visuelle renouvelée. Ce changement s'inscrit dans la continuité et non dans la rupture. Il est le résultat d'une réflexion profonde, collective et fidèle à l'évolution de notre organisme, a indiqué la directrice Marilène Terrien lors du dévoilement officiel ayant eu lieu le jeudi 22 janvier en présence de plusieurs invités. Pendant de nombreuses années, la ressource était identifiée par un logo représentant un fauteuil roulant. Si ce symbole a longtemps porté un message fort, il ne correspondait plus entièrement à la réalité actuelle des personnes accompagnées. Nous avons réalisé avec le temps que cette image mettait surtout l'accent sur la différence. Nous souhaitons désormais valoriser la personne, ses capacités et sa place au cœur de la communauté. Notre ancien logo associait trop directement notre organisme à une seule limitation, alors que les personnes que nous accompagnons vivent des réalités multiples, diverses et parfois invisibles. Plusieurs ne s'y reconnaissaient pas, a-t-elle ajouté. On parle ici de Marilène Terrien. On écoute une nouveauté signée Flore Laurentienne et tout de suite après, on parle avec Anne-Élisabeth Bossé, qui est co-porte-parole de la Journée nationale de mobilisation pour l'Alzheimer. « À l'occasion du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer lance la campagne « N'oublions personne ». Point culminant de cette mobilisation, c'est la Journée nationale de mobilisation, justement, pour l'Alzheimer. C'est aujourd'hui même, le 28 janvier. Et pour en parler davantage, on joint avec grand plaisir Anne-Élisabeth Bossé, que vous connaissez très bien, une comédienne extrêmement populaire qu'on a vue un peu partout, au cinéma, aussi à la télévision, je pense à Gâté pourri, à Menteuse, ça c'est un film, Les Furies également, Les Amours imaginaires, je pense que c'est la première fois que je vous ai vu, le film de Xavier Dolan, est-ce que ça se peut? Anne-Élisabeth, bonjour.
C'est exactement ça, c'est mon premier film, puis ça nous rajeunit pas, ça fait faire un petit... pas loin de 18 ans peut-être.
Oui, et vous êtes sortie du conservatoire en 2007, donc ça va faire bientôt 20 ans que vous êtes dans le métier.
Oui. Eh oui.
Ça va vite. Alors, Anne-Élisabeth, vous êtes donc la co-porte-parole de la campagne N'oublions personne. Qu'est-ce qui vous a motivée à vous engager auprès de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer?
Ça fait 4 ans que je suis porte-parole. Éric Bruneau s'est joint à moi cette année. Moi, il y a 6 ans, mon père a eu un diagnostic et puis... On a traversé ça avec ma famille et puis quand j'ai su qu'ils cherchaient un porte-parole, j'ai levé la main.
Ah oui.
Moi, je pense que ça me ferait du bien. Puis j'ai envie de me rendre utile. J'ai envie de sortir de mon impuissance. Puis c'est ce que je tente de faire à chaque année avec les entrevues, les marches, les colloques, toutes sortes d'affaires.
Vous êtes très impliquée. Et pourquoi on a fait appel à un autre porte-parole? En plus de vous, là?
Bien, je pense qu'Éric avait cette même mission intérieure que moi. Puis on essaie de faire les choses en grand cette année. On veut faire des grosses soirées bénéfices. On veut encore plus faire parler de la maladie. Fait qu'on se partage la tâche.
Oui. Et parce que c'est une bonne tâche, je disais qu'il y a plus de 187 700 Québécois qui vivent avec un trouble neurocognitif et ce nombre va dépasser 360 000 d'ici 2050. Et derrière les chiffres, il y a évidemment des humains. Et est-ce que le message, l'importance de parler plutôt des troubles cognitifs, neurocognitifs, est-ce que ce message vous semble important, incontournable, Anne-Élisabeth?
Oui, c'est vraiment l'air de la guerre, là. D'ailleurs, le site Internet pour se renseigner, c'est plutôt.ca, P-L-U-S-T-O-T, dans le sens que plus vite on sait, le mieux on peut agir sur la maladie. Parce que c'est souvent ça, les gens font « j'espère que c'est pas ça », ils font de l'anxiété, ils s'isolent parce qu'ils sentent qu'ils en perdent des bouts, ils suivent pas à poc. Puis c'est tout ce qu'il faut pas faire parce que rester le plus longtemps sociable, c'est ça qui va aider la maladie à pas progresser trop vite. Fait que plus vite on sait, plus vite on peut avoir une pointe dessus. Il y a même des bonnes nouvelles maintenant. Il y a des médicaments qui sont homologués qui peuvent pas guérir, mais ralentir quand même considérablement la maladie. Mais ils fonctionnent quand on un diagnostic tôt. Fait que c'est pas quand la maladie est trop avancée. Fait que c'est vraiment important parce qu'avant, je disais ça, mais je savais pas trop pourquoi je le disais.
Il faut
mieux le savoir. Mais maintenant, je sais pourquoi je le dis. Je vois à quel point ça a un impact, les gens qui sortent de leur honte, qui continuent à faire leur épicerie, jouer au golf, parler, cuisiner. J'ai rencontré tellement de gens qui sont atteints de la maladie, qui ont encore une vie agréable. Donc, c'est ça, j'ai le goût de dire aux gens, 1-888 mémoire aussi, si on a des questions, là, c'est juste des avantages à aller voir ce qu'il y a là, parce que c'est ça, c'est... je pense que je suis claire.
Il faut vraiment taper sur le clou quand même, parce qu'il y a toujours de la peur, des préjugés. Pourquoi, selon vous?
Parce que c'est drôle, quelqu'un qui a le cancer, il y a comme une empathie généralisée. On est moins mal à l'aise avec le cancer qu'avec l'Alzheimer. Tout ce qui est santé mentale, je pense qu'il y a encore énormément de tabous. Puis c'est ça, il y a des... ça se guérit pas, fait qu'on pense à mort. C'est pour ça que c'est difficile. C'est vraiment pas une cause sexy. C'est la plus dure des causes, je pense, pour sensibiliser les gens. Mais comme vous avez dit les chiffres plus tôt, puis derrière, c'est les gens atteints. Il y a 3 prochains dents en moyenne. Donc c'est ça, c'est un enjeu de société, là, tu sais.
Et le slogan de la campagne de cette année, c'est N'oublions personne. Comment vous interprétez cet appel-là?
C'est ça, c'est justement c'est la personne qui est atteinte, puis tout son petit village autour, tu sais.
Ouais.
Tous ceux qui ont besoin de ressources, ils peuvent appeler, pas juste... fait que presque toutes les régions du Québec ont une société Alzheimer. Aller chercher du soutien, aller chercher de l'information, c'est ça. Je pense que tout le monde qui est atteint de ça a besoin de renfort. Fait que pensons à tout le monde là-dedans. Ouais.
Et en tant que personnalité publique, est-ce que vous sentez une responsabilité particulière quand vous prenez la parole sur un enjeu de santé comme l'Alzheimer?
Mais je le fais pas pour ça. C'est vraiment égoïste et personnel. Mais ma mission, tu sais, je pense que tout ce que j'ai pas pu faire pour mon père, j'ai l'impression que je pallie à ça en étant porte-parole. C'est une façon de vivre avec ça aussi pour moi. Puis plus je rencontre des gens, puis plus je m'informe, ça fait 4 ans, plus oui, là, je sens que je vois les impacts du message, là. Fait que, ouais. Au départ, c'était pas pour être hot. C'était vraiment pour aller mieux.
Et est-ce que vous allez mieux?
Correct.
Correct.
Non, mais c'est parce que moi, maintenant que j'ai le nez dedans beaucoup, j'ai hâte que les médicaments soient remboursés par la pharmacie, j'ai hâte qu'ils soient moins chers, j'ai hâte que tout le monde y ait accès. Je vois tout le progrès qu'il y a à faire, mais ça, c'est parce que je suis motivée. Mm-hmm. Fait que, oui, dans le fond, je vais mieux. Je suis juste plus investie.
Et vous disiez tantôt que votre père est atteint de cette maladie depuis maintenant 6 ans. À titre plus personnel, est-ce que le fait, justement, que votre père ait cette maladie vous fait réfléchir sur votre propre condition?
Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, vraiment. Puis surtout, mon père, moi, je trouve que c'est ça, il y a eu la pandémie, il y a eu toutes sortes d'affaires, il y a eu un diagnostic très tard. Il est allé chercher de l'information avant, mais le diagnostic n'est pas arrivé. Fait que je vois tous les impacts négatifs que ça a eu, là, tout le clou sur lequel je cogne depuis tantôt, tout ça, c'est pas arrivé dans mon cas. Fait que je me dis, là, je voudrais pas qu'il m'arrive la même affaire. Mm-hmm. En même temps, tu sais, je partage ce message-là, mais j'ai pas encore de déclin cognitif. Fait que je sais de quoi je parle, mais d'un côté, je sais pas de quoi je parle. Si c'est de moi dont il était question, faudrait que j'écoute l'autre moi porte-parole. Je comprends les peurs des gens aussi. Fait que tu sais, j'y réfléchis, mais c'est encore théorique, tu sais.
Oui. Votre père va comment aujourd'hui?
J'aime mieux pas trop aborder la question. C'est ça, c'est plus personnel. Mais il est encore parmi nous.
D'accord. Bien, tant mieux s'il est encore parmi vous et on lui souhaite du bonheur parce que certaines personnes pensent qu'une fois qu'on a la maladie d'Alzheimer et qu'on est à un stade très avancé, bien, la vie ne vaut plus la peine.
Ça aussi, c'est...
C'est personnel aussi.
Bien, c'est pas ça, c'est qu'il y a aussi le... C'est vraiment sombre, là, mais il y a aussi l'onglet aide médicale, demande d'aide anticipée d'aide médicale à mourir, qui est sur le site de la Fédération aussi. Puis c'est correct de se poser ces questions-là aussi. La vie vaut la peine d'être vécue, mais je sais qu'on cherche une qualité de vie aussi. Fait que ça aussi, c'est des enjeux plus éthiques, mais les deux sont possibles. Mais dans le cas de mon père, oui, il y a encore une arme, il y a encore des clins d'œil, il y a encore des câlins. Il reste toujours un petit peu quelque chose, mais... C'est ça. Si lui avait pu prendre cette décision-là avant, quel aurait été son choix? Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est du cas par cas.
Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission de Grégory Charles avec une chorale de personnes qui ont des problèmes cognitifs. Et lui-même a eu 2 parents atteints de l'Alzheimer. Il a passé un test génétique pour savoir si il avait... Je pense que c'est un gène. Là, je ne connais pas trop ça. Mais vous, est-ce que vous seriez prêt à faire cette démarche-là? Prête à faire cette démarche.
Oui, c'est des questions vertigineuses. Je pense qu'éventuellement, il va falloir que j'y me pense plus sérieusement. J'ai 41 ans. Oui, je comprends la démarche de Grégory Charles, vraiment. Pour l'instant, moi, j'ai pas de réponse claire à donner.
Ça viendra peut-être avec le temps. Et qu'est-ce que vous faites, sinon, à part d'être porte-parole? Je sais que vous êtes porte-parole d'un autre événement, cette fois culturel, plein écran. Oui. Et qu'est-ce que c'est exactement, en quelques mots, Anne-Elisabeth?
C'est tellement adorable, plein écran. On va sur le pleinécran.com, mais on met des S, ça fait comme pleinsécran.com. Mm-hmm. Et on a 4 courts-métrages québécois gratuits par jour. On peut converser avec les réalisateurs du jour. On peut voter pour notre film préféré. C'est toute une belle sélection de 40 films qui a été faite. C'est toutes sortes de petites histoires en bas de 20 minutes, des beaux cinéastes d'ici qu'on découvre, d'autres qu'on redécouvre. C'est vraiment un bel objet, le court-métrage. C'est une façon de raconter l'histoire qui est tellement différente. Il y a des films tendres, il y a des films coup de poing, il y a des films absurdes. Moi, je suis bien fière d'être porte-parole de plein écran.
Oui, vous allez aussi participer à une soirée, je pense. Vous allez lire un scénario?
Oui, alors demain soir, on a une lecture de scénario menée par Jean-François Leblanc, avec qui j'ai travaillé sur Ville Misérable. C'est un réalisateur. Mm-hmm. Et on va lire plein de scénarios de courts-métrages avec Sandrine Bisson, Patrick Abélard, Guillaume Cyr, entre autres. On va être derrière des lutrins, puis on va se faire distribuer des textes avec des bons anti-castings, puis on va voir qu'est-ce que ça donne quand on lit ça devant le public.
Oh, ça devrait être une soirée extrêmement divertissante. Ça se passe où exactement?
Au Hofgang Plaza.
Ah oui.
Oui, c'est là, c'est à Montréal. Là, j'ai pas l'adresse sous la main, mais oui, c'est ça, c'est au Hofgang Plaza.
Bon, alors, si on veut y aller, on va trouver l'information en faisant des recherches.
Oui, il y a des recherches. Sur l'écran, tout est là, toutes les informations sont là.
Alors, on sait que vous faites de la radio aussi à Rouge FM. Ça m'arrive d'attraper votre chronique. C'est toujours assez vivant et coloré. Et êtes-vous sur un plateau de tournage en ce moment?
En ce moment, pas de tournage, répétitions de théâtre qui vont s'amorcer bientôt.
Ah oui?
Belle année de théâtre devant moi, plusieurs projets. Fait que c'est plus un retour sur les planches.
Ah, quelle bonne nouvelle! Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Oui, bien d'abord, le théâtre d'été au Vieux Terrebonne, la Florida qu'on reprend.
Oui, c'est vrai.
Trois d'autres sa mère de motel en Floride. j'ai rencontré mon équipe, on va bien rire, je pense.
Inspiré du film, là.
Inspiré du film, oui. C'est même les scénaristes du film qui font l'adaptation pour le théâtre. Fait qu'on a les mêmes auteurs. Puis après ça, les lancements de théâtre, de programmation vont plus être au printemps. Fait qu'on va voir ce qui se passe l'année prochaine. J'en dis pas plus, mais on va me voir un petit peu partout. Puis ça, c'est
bien le
fun.
Ben oui, c'est bien le fun pour vous et pour nous également. Alors, ça a été un plaisir de vous parler, Anne-Élisabeth. Je rappelle que la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer invite la population à s'informer, notamment par le site pluto.ca et la ligne 188-MÉMOIRE. C'est bien important. Et espérez-vous, avez-vous l'intention d'être co-porte-parole longtemps pour la Fédération?
Bien, j'avoue, c'est une lourde tâche. Mais maintenant que j'ai un partenaire, oui, ça me donne
un peu d'oxygène.
Ça me donne des petites ailes, là, un peu. Oui, oui. C'est fun. Puis, avec Eric, qui est très créatif, on a envie de faire des gros événements, des grosses soirées bénéfices. On a envie de faire des pas de géants. Fait que, en ce moment, j'ai pas l'intention de partir, non.
Bon. Tant mieux. Bonne nouvelle. Merci beaucoup, Anne-Élisabeth Bossé. Bonne santé à vous. Là, c'est important parce que vous êtes très sollicitée, mais il faut quand même penser à vous.
On prend soin de soi à travers tout ça.
D'accord. Bonne journée. À la prochaine.
Merci, vous aussi. Bye-bye.
Merci.
Du temps, j'ai juste envie de vivre ces beaux moments. As-tu besoin d'un instant pour respirer? Moi, j'ai le goût de partir ce soir à tes côtés. Je veux m'enfuir avec toi, oublier le monde qui tourne pas rond, cacher quelque part au fond des bois et laisser passer les saisons. On va faire comme besoin de grand chose, si t'es là, ça suffit. Je veux m'enfuir avec toi, oublier le monde qui tourne pas rond, cacher quelque part au fond des bois et laisser passer les saisons. On va faire comme la première fois dans le sous-sol de chez nos parents. Quand je t'ai promis que j'allais être là pour traverser les saisons, traverser.
quelque part au fond des bois et laisser passer les saisons. On va faire comme la première fois dans le sous-sol de chez nos parents, quand j'ai promis que j'allais être là pour traverser les saisons.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Le cœur, le cœur, le cœur.
Ça me crève le cœur de devoir prendre cette décision en tombant dans le vide.
Ça me crève le cœur
de se mettre de côté et s'oublier.
Ça me crève le cœur
de chercher tous les mots pour comprendre ta musique.
La voix de Léonie Gray qui chantait Crève-cœur.
La campagne Déneiger la voix, V-O-I-E-D-N-C-A, est en cours et j'ai le plaisir d'en parler avec Sarah Rouleau, gestionnaire des communications et de la sensibilisation à INCA. Bonjour Sarah.
Bonjour Hélène.
Et Fadila Rachidi, qui a une limitation visuelle et qui se déplace en transport en commun et en transport adapté, et c'est pas toujours facile. Bonjour Fadila.
Bonjour.
Tout d'abord, on commence avec vous, Sarah. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le but de la campagne Déneiger la voie?
Oui. Donc, la campagne Déneiger la voie, c'est le but, c'est de rappeler l'importance de déneiger pour permettre aux piétons de se déplacer de manière sécuritaire et de pouvoir surtout là, mener leurs activités quotidiennes, même en hiver. Donc, on sensibilise bien sûr les municipalités, mais aussi le public aux obstacles que créent les voies enneigées et glacées. Donc, quand je parle de voies, on parle de trottoirs, on parle de passages piétons, de traversées de rue, mais aussi des arrêts d'autobus. Et on rappelle surtout que c'est la responsabilité de tous de garder la voie libre d'obstacles parce que c'est souvent très périlleux et dangereux pour plusieurs personnes, même voire des milliers de personnes au Canada, en particulier là, les populations qui sont plus vulnérables. Donc, on peut penser aux enfants, aux aînés, aux parents qui se promènent avec des poussettes et bien sûr, bien, aux personnes en situation d'handicap.
Absolument. Fadila, vous qui avez une limitation visuelle, comment vous vous sentez lorsque vous vous déplacez l'hiver?
Alors, l'hiver, c'est une boule d'angoisse parce qu'il y a toujours des imprévus. C'est toujours des imprévus parce que même si dans notre tête on sait que on entend que c'est déneigé, mais en fait dès que je me déplace sur les trottoirs, il y a toujours les coins de route qui sont pas déneigés. Donc les coins de route, les petites sorties, donc c'est les repères avec ma canne blanche qui me rendent à ma destination. Donc, il y a toujours des imprévus à cause des montagnes de neige. Je me suis mise plusieurs fois en danger à cause de...
Ah oui?
Oui, plusieurs fois, oui.
Même cette année?
Ah oui, même cette année, oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Fadila, des exemples de défis ou de dangers que vous avez rencontrés sur votre chemin?
Alors, cette année, dès le début de tombée de neige, une fois, c'était pour accompagner mon garçon qui était en retard à l'école. Donc, pour aller avec lui, c'était facile de se m'y rendre. Mais quand je suis revenue avec ma canne blanche, quand je suis partie avec mon garçon, c'était le raccourci. Mais quand je devais revenir chez moi, ça, c'est juste un endroit qui est familier pour moi. Donc, il y a moins de stress. Mais finalement, à mon retour, le coin de route où j'avais pas de détails pour tourner, par exemple, sur ma gauche, tellement il y avait une montagne de neige. Donc, j'ai marché beaucoup plus sur la route, pas sur le trottoir parce qu'elle n'était pas dégagée. Donc, je me suis retrouvée en quatre chemins.
Aïe, aïe.
Et j'ai bloqué toutes les voitures. Heureusement, il y avait un monsieur qui descendait de sa voiture, qui m'a accompagnée jusqu'au trottoir et tout. Et la semaine passée, je suis partie me rendre à la banque où j'ai l'habitude de compter les traversées de route. Donc, où il faisait tellement froid que chaque coin de route, il y avait un coin de route où c'est pas dégagé. Donc, je marchais sur la route. Je sais pas que je marchais sur la route. Donc, il y avait un monsieur qui m'a aidé à me remettre sur le trottoir. Et là, j'ai dépassé ma banque. Et là, je me retrouve dans ma tête, je suis à nulle part. Donc, je me suis dit que je suis tellement perdue, alors que ma banque, elle n'est pas trop loin de chez moi. Donc, heureusement, il y avait un autre monsieur qui descendait de sa voiture, mm-hmm. qui m'a aidé à me remettre sur les trottoirs.
Oui, heureusement qu'il y a eu ces personnes-là pour vous venir en aide, mais c'était quand même difficile. Sarah, en plus... Sarah...
Oui, c'est beaucoup une perte de repères, hein, parce que c'est ça, les trottoirs, souvent, normalement, quand ils sont bien déneigés, on au coin de la rue, on le sait qu'on arrive au coin de la rue, tu sais, il y a du tactile, mais là, quand il y a de la neige, on le sait pas. Donc souvent, et en plus, la neige blanche, ça peut être très, quand c'est mal déneigé, tu sais, c'est très éblouissant, donc on voit pas la différence entre la rue, le trottoir, puis comme Fadila disait, les repères, ben, tu sais, souvent, les gens qui ont une canne blanche, ils vont compter le nombre de rues, le nombre de, pour se rendre à destination, mais là, quand tu montes par-dessus des buts, que tu contournes, que tu dévies ton déplacement, ça devient très, très difficile d'avoir des repères, puis c'est facile justement là, de se perdre ou en tout cas de dévier de notre chemin, puis ça devient très, très dangereux.
Oui, dangereux et angoissant. Et en plus d'être dangereux, des trottoirs, des intersections, des arrêts de transport en commun mal déneigés ou glacés ont un impact encore plus grave. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sarah?
Oui, donc déjà, le danger, c'est important, mais on peut dire aussi que le déneigement, c'est vraiment un enjeu là, de mobilité, d'accessibilité puis de droit de la personne. Mm-hmm. Donc, en fait, là, les trottoirs, les passages piétons, les arrêts de transport en commun, c'est des infrastructures essentielles que les piétons utilisent pour se déplacer, puis ils devraient être sécuritaires et accessibles, peu importe la saison. Donc, quand c'est quand il y a des bancs de neige, là, c'est pas juste des bancs de neige, là, c'est vraiment une barrière à la liberté et à l'indépendance de pouvoir se déplacer dans notre ville. Donc, quand c'est pas correctement déneigé, ben ça empêche plusieurs personnes, là, comme Fadila, c'est pas la seule, de pouvoir se déplacer, d'aller au transport en commun ou même d'utiliser les services de leur ville, là, comme elle disait la banque. Donc, ça limite vraiment les capacités, en fait, là, de faire les activités quotidiennes. Ça peut être d'aller à l'école avec son garçon, ça peut être d'aller à la banque, mais ça peut aussi être d'aller à l'épicerie ou même d'aller travailler. Puis pourtant, tout le monde là, devrait pouvoir quitter son domicile puis se déplacer, puis se rendre où ils en ont besoin, quand ils en ont besoin. On peut pas attendre là, plusieurs jours que ça soit bien déneigé avant de pouvoir reprendre ses activités. Là.
Fadila, est-ce que ça vous est déjà arrivé, mais j'imagine que oui, là, de vous empêcher de sortir en raison d'un mauvais déneigement?
Oui.
Être capable de vous rendre?
Oui, parce que des fois, ils vont déneiger les trottoirs, par exemple, mais ils laissent tout un couloir. Donc, c'est comme un corridor, vous avez une montagne par là, une montagne par là, qu'au bout du trottoir, il n'y a même pas une sortie pour sortir du trottoir en question. Alors... Comme Sarah dit, pour les arrêts de bus, en sachant qu'il n'y a pas un truc tactile qui dit qu'il y a un arrêt de bus déjà. Donc, on le sait par habitude. Donc, quand les trottoirs ils sont pas dégagés, on n'a même pas ça veut dire l'accès à se mettre debout pour attendre le bus. Donc, on est tout. Moi, personnellement, je suis toujours sur la route pour attendre le bus ou bien quand je débarque dans un arrêt précis avec le transport en commun, on vous débarque sur la route, pas à la bordure du trottoir.
Ouais,
donc, tellement, c'est pas déneigé.
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait, là, les priorités? Là?
Les priorités?
Oui, vas-y, Fadila.
Pour moi, les priorités, c'est quand il déneige, ils doivent bien nettoyer les coins de route pour se rendre déjà au signal sonore. C'est difficile de le trouver s'il y a toute une bande de neige pour le signal sonore, pour les arrêts d'autobus, pour les traversées de route. Donc, c'est très, très important, les coins de route pour les déneigements.
Et Sarah, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire?
Bien, en fait, c'est important de ne pas créer de bancs de neige, c'est supplémentaire. Donc, des fois, quand on déplaie notre entrée, bien, ça fait des petits bancs de neige sur
mais
le
oui,
trottoir.
On n'a pas le choix tellement. Hein?
Oui, donc c'est vraiment important. C'est la responsabilité de tout le monde de s'assurer que les trottoirs sont libres d'obstacles. Puis, c'est la responsabilité de tout le monde dans les 48 heures. Donc, dès que la neige a fini de tomber, c'est important là, pour que tout le monde puisse se déplacer de s'assurer que le trottoir est libre d'obstacles, donc devant chez nous, par exemple. Puis si on voit, quand on se promène, des trottoirs qui sont mal déneigés ou des grosses buttes de neige sur une intersection ou des choses comme ça, ne pas hésiter à appeler le 311 ou à faire une plainte à sa municipalité. Donc, normalement, il devrait régler la situation. Donc, ça permet aux prochains qui vont passer là de ne pas avoir l'obstacle. Puis, bien sûr, ben, d'en parler autour de soi. T'sais. Donc, on réalise pas tout le temps des fois qu'une petite bande de neige, parce qu'on a déblayé notre entrée puis qu'on ne l'a pas faite comme il faut, ça a un impact sur la mobilité des gens. Donc, d'en parler autour de soi. Puis, on a des messages sur les médias sociaux, sur INCA. Donc, n'hésitez pas à le partager. Les gens, des fois, ils ne savent même pas qu'ils créent des obstacles pour les piétons.
Ce n'est pas fait de façon malicieuse. Et le temps file, Sarah. Qu'est-ce que INCA demande aux villes?
Oui, donc aux municipalités, on demande de revoir leur politique et pratique de déneigement et de mettre du budget, en fait, pour vraiment s'assurer de bien déneiger les trottoirs, les coins de rue, les arrêts de transport en commun. On le sait qu'il faut plus de ressources. Donc, souvent, ils nous disent « Ah, ben des fois, ça va prendre 76 heures ou je sais pas combien d'heures. » Ben il faut plus d'argent, plus de ressources parce que c'est une priorité aussi pour les piétons de pouvoir se déplacer. Comme je disais, on peut pas attendre attendre une semaine que tout soit déneigé. Là, c'est important de pouvoir se déplacer. Puis Fadila l'a bien dit là aussi, les boutons pour les traverses de rue, c'est important qu'ils soient accessibles. Puis comme je disais, moi, les intersections, s'assurer là, qu'on a accès au côté tactile pour qu'on sache qu'on arrive à une intersection, même en hiver, c'est important.
Alors, merci de nous avoir rappelé l'importance de déneiger la voie. Je vous souhaite bonne chance avec les élus notamment. Et il faut se rappeler souvent que les déplacements sont un des plus grands défis pour les personnes aveugles ou qui ont une basse vision. Et c'est pire l'hiver. Sarah Rouleau, gestionnaire des communications et de la sensibilisation à INCA, et Fadila Rachidi, ayant une limitation visuelle et se déplaçant en transport en commun et en transport adapté. Merci beaucoup à vous deux. De nous avoir accordé du temps pour parler de cette campagne importante, Déneiger la voie. Merci.
Bien, merci à tous de déneiger la voie, justement. Merci beaucoup.
À la prochaine.
Bye bye.
Au Théâtre Denise Pelletier, à partir du 3 février jusqu'au 21 février, on représente Agamemnon in the Ring, une guerre de Troie contre Troie, qui revisite la tragédie grecque en la propulsant dans l'univers de la lutte professionnelle. Une idée extrêmement originale d'Hilaire Saint-Laurent, qui signe la mise en scène, qui a écrit le texte, qui a co-mis en scène ce projet et qui est dedans la distribution. Dedans la distribution, oui, à titre d'interprète. Bonjour Hilaire.
Bonjour.
Alors, quelle a été la bougie d'allumage pour ce projet qualifié peut-être de fou ou de très original?
C'est ce qu'on dit. Et c'est étrange parce que moi, je n'étais pas un adepte de tragédie grecque vraiment, ni de lutte.
Bon.
on a fait énormément de tragédies grecques à l'école ou de tragédies revisitées par Racine, entre autres, là, quand j'étais à l'école de théâtre. Et la lutte est apparue pour financer un voyage au Conservatoire de Paris en dernière année à l'École nationale de théâtre du Canada.
Oui.
Et ça a été là un petit peu la bougie d'allumage. J'ai été happé devant cette forme de théâtre, au final, hein, par la lutte. Beaucoup de gens pensent que c'est du combat uniquement,
ouais.
Mais c'est vraiment une forme qui m'a vraiment surprise. Et c'est, en fait, la grande révélation, ça a été de dire les codes que je retrouvais dans la tragédie grecque semblaient être les mêmes que ceux que j'observais dans une forme de gala de lutte ou de la façon de raconter ces histoires-là.
Ah oui, quels sont ces codes-là?
Ben, il y en a. En fait, c'est plus je fouillais lors de l'écriture de cette pièce-là, plus je me rendais compte qu'ils étaient nombreux. Et entre autres, par exemple, dans la tragédie, on a le cœur qui commente un peu l'action. On retrouve cette figure-là dans les matchs sportifs, entre autres la lutte, où on a des commentateurs qui vont observer, qui vont donner leur point de vue. Mm-hmm. Il y a une figure qui s'appelle le coryphée aussi dans la tragédie grecque, qui parle au cœur, qui parle au public, qui parle au personnage. Et si on retrouve ça aussi avec dans la figure de l'annonceur, qui a ce même rôle-là. Les entrées des personnages, mais qui sont assez cérémoniales dans les deux cas. Mais la chose la plus marquante, je pense, c'est la prise de parole. Dans la tragédie grecque, il y a une forme de parole rhétorique où on explique pourquoi on devrait faire tel geste, puis ça va être de longues tirades. Mais on retrouve un peu cette même forme-là à la lutte aussi. Les personnages vont prendre parole, vont se défendre. Il y a une joute oratoire avant la joute physique. Et c'est tous ces éléments-là qui m'ont incité à dire, bon, ces deux univers-là doivent s'emboîter.
Agamemnon, qui est-il?
Agamemnon, c'est une des figures un peu moins connues quand on parle de la guerre de Troie. En fait, moins connue du grand public, on connaît bien Ulysse, Achille, mm-hmm. mais Hélène de Troie. Mais Agamemnon, c'est probablement la figure la plus importante, car c'est vraiment lui, c'est le roi de la cité de Mycène qui va décider de partir pour son frère, qui s'est fait voler sa femme. Donc, et dans la tragédie, dans les nombreuses tragédies qui sont écrites, on le retrouve tout le temps. Donc moi, mon objectif, ça a été de dire, est-ce qu'on est capable d'en faire une seule trame? On sait qu'il dans Iphigénie de Racine, il est porté par le dilemme de sacrifier sa fille ou de partir en guerre à Troie. On le retrouve dans Échille, où à la fin, quand il revient, ben, il se fait assassiner par sa femme Clytemnestre.
Vous connaissez bien vos classiques.
Oui, exact. Et dans l'Iliade, ben, il est présent aussi, c'est le chef de guerre.
Oui.
Donc, le but, ça a été de mettre ces trois histoires-là pour en faire une seule et même histoire. Mm. Et c'est pour ça que c'était vraiment une réécriture complète, complètement originale.
Est-ce que ça a été fastidieux comme écriture, comme travail d'écriture?
Ça a été 4 ans d'écriture.
Ah, oui.
Parce que il y a quelque chose qui est arrivé dans le processus, un peu par hasard. C'est, je voulais créer une langue, je voulais que ce soit une langue qui parle d'ici, un peu comme la lutte aussi, hein, ça a émergé du monde populaire, alors je voulais trouver une langue qui parle d'ici. Fait que, ça arrive un peu par le détour, je me suis mis à écrire en alexandrin québécois, qui mélange un peu des formes classiques avec des expressions d'ici. Donc, je me suis lancé là-dedans, un peu avec beaucoup de naïveté. Moi, j'ai pris un plaisir immense à écrire ça, mais oui, c'est un travail d'orfèvre.
Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une réplique? Comment ça sonne?
Oui, il y a vraiment une mixité entre des vers un peu plus de sonance classique avec du jargon populaire, du jargon du monde de la lutte. Donc, ça donnerait quelque chose comme « Je reprendrai la ceinture au fils de Priam qui, par ma main, goûtera à mon choke slam ». Un choke slam, c'est une prise de lutte classique où on agrippe le lutteur par la gorge en l'étranglant pour le projeter au sol.
Wow!
Que, voilà.
Il y a un collègue ici que vous connaissez peut-être, Gilbert Lepage, qui est un homme de théâtre qui a laissé sa marque et qui est très, très critique de tout ce qu'il voit. Il voit à peu près tout ce qui est théâtre à Montréal et ailleurs. Et il m'a... conjuré, il m'a supplié, ben pas supplié parce que j'aime aussi beaucoup le théâtre, mais il m'a dit « Faut que tu ailles voir Agamemnon, c'est un must absolu. » Je pense que vous créez un buzz, pour bien parler français, là. Ça fonctionne bien auprès de tous vos publics, surtout au Théâtre Denise Pelletier, où vous vous adressez notamment aux jeunes.
Écoutez, c'est l'équipe, on est surpris à chaque étape. Ça fait le projet, ben, j'ai pris 4 ans à l'écrire, mais après ça, on a essayé de. On était des. À cette époque-là, on était vraiment de la relève. Donc, on essaie de faire notre marque. Le projet, ça fait presque 8 ans qui est débuté. Ça fait 4 ans maintenant que la production existe. Et oui, on est complètement subjugué par l'effet populaire, par l'engouement autour du projet. On a fait jusqu'à maintenant aux écuries à la création complet, au 4 sous complet, les maisons de la culture qu'on a fait l'an passé aussi complet. Et là, on s'aligne et devancer, mais...
Mettre la charrue devant les bœufs.
Complet aux Denise Pelletier aussi.
Ah oui, c'est toute une salle, ça.
C'est de 800 places. Il reste quelques billets, donc si vous n'avez pas vu, je vous invite parce que je pense qu'on va débuter l'enchaînement du spectacle, peut-être à guichet fermé. Fait que,
pensez-vous promener ce spectacle-là à travers d'autres villes du Québec, à travers d'autres régions?
On le tourne depuis, c'est ça. Après le théâtre aux écuries, on a fait une année de tournée, une douzaine de dates. Et l'an dernier, c'était notre deuxième année de tournée avec un arrêt au Théâtre de Cassou et aux Maisons de la culture. On est rendu à 65 représentations au compteur.
Ah, oh, quand même, vous êtes bien rodé. Ouais. Et puis, c'est aussi, il y a un aspect opéra rock, là, parce qu'il y a des chansons dans cette production-là.
Vraiment, qui se retrouve dans les... un peu dans l'univers de la tragédie grecque et aussi de la lutte. On sait que les lutteurs arrivent souvent sur leur musique. Leurs chansons thèmes. Et dans la tragédie grecque, il y avait ces chants, on le sait, c'est des moments peut-être dansés aussi. Donc oui, c'est ponctué de plusieurs chansons d'opéra rock. On est 12 sur scène qui chantent, qui dansent, qui combattent et qui s'envoient des alexandrins punchés au gage.
Wow! Beaucoup, beaucoup de monde. Maude Demers-Rivard ou Hélène Durocher, Frédéric de Sagé, José Dufour, Joannie Guérin, Frédéric Lavallée, Marie-André Lemieux ou Nicolas Santeneau, Sandrine Lemieux, Pierre-Antoine Pellerin, Jérémy Poirier, Hilaire Saint-Laurent, à qui je parle en ce moment, Catherine Saint-Martin, Frédéric Tremblay. Et j'étais curieuse de savoir si vous étiez allé voir le Macbeth de Robert Lepage ou Robert Lepage est allé voir votre pièce, Hilaire?
Je ne l'ai pas encore vu, le Macbeth. C'est au calendrier prochainement.
Il se passe dans le milieu des motards et vous, oui. C'est dans le milieu des lutteurs. Deux classiques, donc, revisités.
Bien, je pense qu'il y a une volonté aussi, on dirait, de se réapproprier nos histoires ou nos traditions théâtrales et de les remettre au goût du jour. On a une façon plus contemporaine aujourd'hui de raconter des histoires. Moi, dans Agamemnon, il y avait ça aussi. Je pense que c'était pas pour rien aussi que j'ai jamais tant aimé l'alexandrin ou la tragédie grecque. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était peut-être un peu, pas désuet, mais je pense qu'on avait peut-être perdu l'essence un peu plus populaire qu'avaient des fois ces formes d'œuvres-là. On sait que, entre autres, on parlait de Macbeth, mais Shakespeare, ça se passait au Globe.
Oui. Alors, on va être obligé de s'arrêter là, mais de toute façon, vous nous avez convaincus. On ira au Théâtre Denise Pelletier à partir du 3 février. Il reste quelques billets. Il faut se dépêcher. Agamemnon in the Ring. Une guerre de 3 contre 3. À bientôt, Hilaire Saint-Laurent.
Au revoir.